question, je pense que ce chant-là, c'est l'invitation. Et la question est, sommes-nous émus par la majesté de Dieu, sa puissance, sa sagesse dans nos vies, comme on a même eu témoignage ce matin. Mais surtout, peut-être, ce qui nous touche profond, c'est son amour pour nous. Il nous aime. Est-ce que nos cœurs sont réchauffés par cette idée que le Dieu de l'univers m'aime? Sinon, que Dieu agisse dans nos cœurs ce matin. On va prendre une petite pause de notre considération de l'épître aux Galates, d'accord? Peut-être vous dites, ouf, c'est bien. C'est bien de prendre une petite pause. Et la raison pour la pause, je pense que je me sentais un peu comme un enfant qui était comme ça pour me voir. Voilà. Ok, et la pause, c'est en raison du fait qu'on a... On a commencé une transition dans notre église pendant notre culte, d'accord? Dans les années précédentes, c'était plutôt les pasteurs qui dirigeaient, qui priaient, et vous chantez, et vous avez écouté, et dans vos cœurs, vous avez participé, bien sûr, mais on a lancé, il y a un peu de temps maintenant, un peu plus de participation par tout le monde. C'est-à-dire maintenant, vous composez les cantiques. Pendant notre assemblée générale, on a parlé du fait qu'en avril, on va lancer dans le temps de partage que l'assemblée peut aussi proposer des lectures bibliques sans commentaire et bref, mais et je voulais prendre le mois de mars pour vous parler un petit peu de pourquoi. Pourquoi ces changements? Pourquoi dans nos églises, on veut pas suivre la façon de la plupart des religions du monde, où on a des personnes initiées qui gèrent tout, qui font tout, et l'assemblée vient, s'assoit, écoute et peut-être reçoit un petit peu et quitte. D'accord? Dans la plupart des religions, il y a, on peut dire, deux niveaux, deux classes d'adhérents. Pourquoi dans les églises de Jésus-Christ, nous disons que nous sommes tous égaux? Et on va commencer, je vais jeter aujourd'hui la base, d'accord, la fondation pour cette pratique qui est croire le don universel du Saint-Esprit. On va parler du Saint-Esprit et l'Assemblée. Et c'est très important qu'on prend le temps pour faire attention à ce que dit la Bible sur le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de confusion. Pas mal de confusion dans les églises en ce qui touche sur le Saint-Esprit et l'Assemblée, le Saint-Esprit et la vie d'une chrétienne, d'un chrétien. D'accord? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on sera un peu théologique, un peu lourd, mais pas trop. Mais je pense que si on suit ce que dit la Bible, on sera réchauffé dans nos cœurs. Parce que vraiment, c'est un don. C'est un privilège. On va regarder ces trois choses. C'est le don du Saint-Esprit qui est universel. C'est un privilège de la Nouvelle Alliance. D'accord? Il y a une participation universelle. Et il y a une soumission progressive et fluctuante dans la vie d'un croyant, d'une croyante. Ok? Ça, c'est, vous allez voir ces points après. Donc, vous faut pas être trop troublé si j'avance trop vite, parce qu'on va prendre du temps pour considérer chaque point. Le don du Saint-Esprit, c'est un privilège de la Nouvelle Alliance. Il y a une participation universelle et une soumission qui est progressive et fluctuante. Okay? D'abord, c'est un privilège de la Nouvelle Alliance. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus a dit, voici mon sang, prenez la coupe, voici mon sang, qui est la Nouvelle Alliance. D'accord? Jésus a établi la Nouvelle Alliance par sa mort et sa résurrection. Ça, c'est quelque chose de très important. On parle dans la Bible de l'Ancien Testament, plutôt Alliance, et la Nouvelle Testament, plutôt Alliance. Et pourquoi? Parce que Dieu a établi avec le peuple d'Israël l'Ancienne Alliance. Mais la promesse à Abraham a exigé une Nouvelle Alliance établi par Jésus-Christ. Et nous trouvons dans la Nouvelle Alliance si nous sommes en Jésus-Christ. Et ça, c'est très clair, je pense, pour tout le monde, mais c'est très important pour comprendre la Bible. Ensuite, l'Esprit Saint est donné à tout par Jésus qui est ressuscité. D'accord? C'est Jésus qui a établi la Nouvelle Alliance. Et une partie de cette Nouvelle Alliance, c'est le fait que Jésus donne le Saint-Esprit à tous ceux qui font partie à cette alliance. On va lire un passage un peu long qui vient d'Actes chapitre 2. D'accord? En Actes chapitre 2, on va commencer la lecture au verset 16, mais c'est Pierre qui parle, et c'est après Pentecôte, d'accord, que le Saint-Esprit descend sur l'Église. Et il veut expliquer, donc il dit, ce qui est arrivé, le fait que le Saint-Esprit a été donné, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Maintenant ici, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il faut juste noter que s'il dit que je ferai ça dans l'avenir, ça veut dire que dans le présent, je ne fais pas. N'est-ce pas? Non? Oui, on va continuer à réfléchir, mais dans l'Ancien Testament, l'Esprit n'était pas donné à toute chair. Fils, fille, vieille, jeune, serviteur et servante. C'était juste des dirigeants. Par exemple, parfois, des rois, comme David, Saül, Saul, des prophètes comme Élie, mais ce n'était pas pour tout le monde. Mais maintenant, il dit non, quelque chose va changer. Je vais donner à tout le monde. Il continue, je prépare des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre, du sang, du feu, des vapeurs, de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, maintenant il explique, il cite, maintenant il explique, il applique. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, comment? Par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me remplirais de joie par ta présence. D'accord? Il cite David. Et maintenant, c'est un peu drôle. Il dit, un frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Et nous disons, oui, c'est un peu clair. Vous avez permission. Donc, comme David était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Conclusion. Jésus, élevé par le droit de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, Joël, ce qu'il a cité, et il l'a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ce passage? Il faut juste noter que dans l'ancienne alliance, tout le monde n'avait pas le privilège d'être habité par le Saint-Esprit. C'était limité aux dirigeants. Mais dans la nouvelle alliance, on a un don universel. Cela veut dire que ce n'est pas que les dirigeants. Ce n'est pas que les hommes. Ce n'est pas que les âgés. D'accord? Maintenant, en Jésus-Christ, les hommes et les femmes. Les dirigeants, les non-dirigeants. Les âgés, mais aussi les jeunes qui sont en Christ, ont le privilège d'avoir le Saint-Esprit. Et juste noter, il a fait les comparaisons, les contrastes, fils-fille, jeune-vieillard, serviteur-servante. On ne peut pas limiter à une seule classe de personnes. Et ça, c'est en contraste avec l'Ancien Testament. Je vous cite juste un passage, en Nombre 11, 29. Josué est un peu jaloux pour Moïse, parce que les hommes sont toujours là devant la tente. Et Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » L'implication claire, c'est que le Saint-Esprit n'était pas sur eux. C'était seulement sur Moïse, Aaron, le dirigeant. Ça, c'est Nombre 11, 29. Et une troisième observation. Le don du Saint-Esprit est reçu par la foi en Jésus-Christ. Dans le passage qu'on a lu, verset 38, acte 2, je vais juste lire à nouveau le verset. Quand ils disent « Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, le Saint-Esprit, ce don du Saint-Esprit est lié à Jésus-Christ. On ne peut pas diviser les deux. Peut-être on dit oui, Michael, c'est basique. Hein? Oui, mais on peut perdre le vue de Jésus en parlant du Saint-Esprit. Il faut savoir que ce privilège vient en Jésus-Christ et par la foi. Pas pour ceux qui méritent, mais pour ceux qui exercent la foi en Jésus-Christ. Ok? Premier point, le don universel du Saint-Esprit, c'est un privilège de la nouvelle alliance qui est établie par Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, c'est donné à tous par Jésus qui est ressuscité et qui est reçu par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est très clair, je pense. Mais est-ce qu'il y a une participation universelle pour tous ceux qui sont dans l'Alliance? La première chose qu'on va dire, c'est que le Saint-Esprit demeure en chaque chrétien. Okay? Est-ce que vous pouvez regarder avec moi 1 Corinthiens 12? On va passer dans les semaines à venir pas mal de temps en 1 Corinthiens 12 à 14. En 1 Corinthiens chapitre 12, Paul est en train d'écrire et il veut, chapitre 11, il a commencé de parler aux Corinthiens par rapport à leur culte d'adoration. Les assemblées publiques. D'accord? C'est pas juste la vie personnelle. Chapitre 12, il se lève cette idée des dons de Saint-Esprit. Chapitre 13, qui est au milieu, parle de quoi? L'amour, qui doit être notre amour qui gère comment on pratique nos dons. Et 14, il termine son argumentation. Voilà. Donc, on a chapitre 12, il parle des dons du Saint-Esprit. Verset 3, il dit, « C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas par le Saint-Esprit. » Donc, si vous êtes là et vous dites « Jésus est mon Seigneur, il est le Seigneur », ça veut dire que le Saint-Esprit travaille déjà dans vos cœurs. Vous n'avez pas la capacité sans le Saint-Esprit. On continue. Le verset 13, chapitre 12. Il dit, « Nous avons... » Et quel est le mot suivant? « Tous. » C'est assez inclusif, n'est-ce pas? « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Il parle à une église qui n'était pas parfaite. Il y a pas de problème dans l'église de Corinthe. Mais il dit, nous avons été tous baptisés dans un seul esprit. Le Saint-Esprit demeure en chaque chrétien. Et Romains 8, 9, d'accord? C'est un verset assez important. On aime Romains 8, mais surtout la fin. On a tendance de lire le premier verset et sauter jusqu'à la fin, mais Paul veut qu'on comprenne quelque chose. Chapitre 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Bon, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et ça soulève une question. Est-ce qu'on peut être un chrétien et ne pas avoir le Saint-Esprit qui demeure en nous? Et donc, il s'explique, il précise. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si vous êtes en Christ, le Saint-Esprit demeure en vous. Okay? Est-ce que ça c'est clair? D'accord. Si vous dites, moi je suis chrétien, je suis chrétienne, je suis en Christ, vous avez le Saint-Esprit en vous. Sinon, vous n'êtes pas chrétien, pas chrétienne. Ok. Ça c'est la première chose qu'on veut noter. Une participation universelle. Ah, j'ai oublié. D'accord. La deuxième chose, le Saint-Esprit habite pleinement en chaque chrétien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on a des frères et des sœurs, d'accord? Je ne veux pas douter qu'ils sont en Christ. Mais ils disent, il faut attendre le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes sauvés, oui, mais il faut que vous attendiez quelque chose. C'est dire que vous avez plus du Saint-Esprit. Et il veut parler du baptême du Saint-Esprit qu'on trouve dans la Bible. Mais je veux qu'on prenne le temps. D'accord? On va prendre un peu de temps maintenant pour analyser ces passages. Parce que ces passages sont les seuls passages qui parlent du fait que nous sommes baptisés soit par ou soit dans le Saint-Esprit. Okay? Et on veut voir qu'est-ce qui est l'enseignement de la Bible, parce que nous sommes obligés de suivre l'enseignement. Okay? Avons-nous besoin du baptême du Saint-Esprit après notre conversion? Ça, c'est la question. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit fait référence, selon le pentecôtisme et le mouvement charismatique, à une deuxième expérience du Saint-Esprit après la nouvelle naissance. Dans certaines églises, il faut prier, il faut faire le jeûne, il faut faire beaucoup de choses jusqu'au point où vous avez le baptême du Saint-Esprit dans le pentecôtisme. Le signe externe, c'est que vous parlez en langue. D'accord? Pour les charismatiques, ce n'est pas exactement pareil, mais il faut faire des choses pour que le Saint-Esprit descende, baptême du Saint-Esprit, et on a des signes de sa présence dans le baptême. Est-ce que ça, c'est ce que dit la Bible? Pour moi, je dis non. Et pourquoi? On va commencer ici. Le baptême du Saint-Esprit, selon le Nouveau Testament, est en fait le baptême dans le Saint-Esprit. Ce sont deux choses différentes, les prépositions. Hein? Si on dit le baptême du Saint-Esprit, c'est comme on a quelqu'un et on baptise avec, n'est-ce pas? Mais si on dit le baptême dans le Saint-Esprit, on plonge dedans. Okay? On va voir ça. En Matthieu 3:11, c'est Jean qui dit, lui, en parlant de Jésus, il dit, « Moi, je vous baptise dans l'eau, ou avec l'eau. » Mais quand il dit « avec l'eau », il dit « je vous plonge dans l'eau. » Parce que ça, c'est la signification principale du mot « baptizo ». Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Cela veut dire quoi? En pneumati agio, ça, c'est le grec, mais j'ai mis ça pour que vous puissiez voir que c'est la même chose chaque fois. D'accord? Même si vous ne lisez pas le grec, vous pouvez dire, ah oui, je vois le même mot chaque fois. La comparaison, c'est moi, je vous mets dans l'eau, il va vous mettre dans quoi? Le Saint-Esprit. Marc 1, ça fait référence du même chose. Lui, Jésus, il vous baptiserait du Saint-Esprit. Luc 3, il vous baptiserait du Saint-Esprit et du feu, comme Matthieu. Jean 1, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Chaque fois, c'est en pneumati agio. Okay. Quelle est la signification de cette préposition? Comment? Dans. Ouais. Comme avec la comparaison, moi, c'est dans l'eau, lui, c'est dans le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Alors, on continue. Actes chapitre 1, 5. Jésus dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, mais c'est le même mot grec, en pneumati agio. D'accord? Actes 11, qui fait référence à la même chose, Pentecôte. Vous serez baptisés du Saint-Esprit, encore une fois, en pneumati agio. Est-ce que vous voyez ça? D'accord, c'est un peu... Alors, je sais qu'on travaille maintenant. Dimanche, c'est pas juste Michael. Ouais, je sais, mais je vais demander pardon après. Et le dernier passage, ok? Le dernier passage, c'est en 1 Corinthiens 12, 13. Ce que nous venons de lire ensemble. Okay? Et là, il dit, nous avons tous, en effet, été baptisés, et selon la version que j'ai devant moi, dans un seul esprit, pour former un seul corps. Et en fait, on a la même construction en grec, en pneumati agio. Okay? Qu'est-ce que je veux dire? quand ce que nous avons appelé, ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit, c'est mieux si on dit c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et on doit prendre en compte ce que Paul dit en 1 Corinthiens 12, écrit les années 50-60, que nous avons tous été baptisé dans un Saint-Esprit. Okay? Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est-à-dire, si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes déjà baptisés dans le Saint-Esprit. Quelle est l'implication? Okay? Quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, qu'est-ce qui arrive à l'esprit? Moi, je dois attendre quelque chose. Je suis un croyant, je suis une croyante. Mais il faut quelque chose. Il faut que le Saint-Esprit tombe sur moi, que je reçoive quelque chose de plus pour la puissance, pour un ministère, pour la sainteté. Et il y a un peu cette idée qu'il y a deux niveaux de chrétiens, n'est-ce pas? On a des chrétiens normaux, d'accord? On est sauvés, merci Seigneur, mais il faut quelque chose en plus. Et on a des chrétiens qui ont déjà eu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et je parle pas de motivation, d'accord? Je parle pas de motivation. Mais ce qui est un résultat concret, c'est quoi? C'est que maintenant, il y a beaucoup de pression pour l'avoir, n'est-ce pas? Parce que qui veut être un chrétien qui n'est pas baptisé? Et dans les milieux où il met beaucoup d'accent sur le fait qu'il faut parler en langue, si on ne parle pas en langue, on n'a pas reçu ça. D'accord? Mais est-ce que ça, c'est l'enseignement de la Bible? Ce que nous venons de voir, c'est non. Donc, moi, je dis, il faut qu'en tant qu'une église, on dit non. On ne peut pas accepter ça. C'est plutôt cette idée. Maintenant, on a le corps du Christ, ok? On a le Saint-Esprit. Et on a des personnes qui croient dans le Saint-Esprit. Et quand une personne met sa confiance en Jésus pour le salut, il est baptisé dans le Saint-Esprit pour faire partie d'un seul corps de Christ. Okay? Est-ce que vous voyez ça? Oui, non, pas du tout, un petit peu. C'est clair comme le bout. Hein? Non, est-ce que ça c'est un peu clair? Pas du tout. D'accord. En 1 Corinthiens 12, qu'est-ce que Paul a dit? Nous avons tous en fait, été baptisé dans le Saint-Esprit pour faire un seul corps. Est-ce que vous avez vu ça avec moi? D'accord. Cela veut dire qu'on n'était pas baptisé avec le Saint-Esprit. En fait, on a été plongé dans le Saint-Esprit. Et j'ai mis le Saint-Esprit dans la forme d'un seul corps juste pour nous donner cette idée visuelle. Qu'en fait, quand nous sommes plongés dans le Saint-Esprit, comme une personne est plongée dans l'eau, c'est notre participation ici, dans le Saint-Esprit, qui nous fait partie du corps de Christ. C'est pourquoi Paul peut dire en Romains chapitre 8, « Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne partiez pas au Christ. » Est-ce que nous sommes tous ensemble? Okay? Et c'est important parce que nous sommes en train de parler d'un privilège. D'accord? Un privilège. Et parfois, nous perdons le regard de nos privilèges. D'accord? Par exemple, nous vivons en France, la liberté, la paix, la sécurité. Et pour nous, oui, c'est la France. Je vis comme ça. Prenons un mois pour vivre dans un pays où il n'y a pas de paix, pas de sécurité, pas de droit d'homme. Et tout d'un coup, vous dites, ah oui, je suis très content d'avoir un passeport français, ou américain, ou quoi. Parce qu'on perd la vision de ce que nous avons. En Jésus-Christ, nous avons ce privilège-là. Nous sommes plongés dans le Saint-Esprit, il habite en nous. Et dans cette salle, chaque personne qui a vraiment mis sa confiance en Jésus-Christ, d'accord, vous êtes ici. Le Saint-Esprit est en vous et en moi. On est égal dans cette idée-là. Donc, mais il y a des récits en Actes qui racontent la transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance qui semble dire on peut être en Christ et il faut avoir le Saint-Esprit qui tombe, n'est-ce pas? Ce que vous avez lu dans le Nouveau Testament en Actes particulièrement? Oui, non? Vous êtes là? Je vous ai perdu, je pense. C'est dur, mais on va arriver à un point d'application, ok? En Actes chapitre 1, 8, est-ce qu'on peut lire ce verset ensemble? Peut-être que vous pouvez citer ce verset. Actes chapitre 1, Jésus parle aux disciples et il dit quelque chose qui va changer le monde, d'accord? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins où? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand vous lisez Actes, l'histoire, les actes de Jésus-Christ par ses apôtres, il a construit ce livre selon ce verset. Et on voit la progression de l'évangile, la parole de Dieu, dans ces étapes. Jérusalem, Judée, Samarie, et la fin du monde, selon eux. Okay? Pas la fin, mais les extrémités. D'accord? Et ce que nous voyons, c'est qu'en Actes 2, on a les disciples de Jésus-Christ qui sont à Jérusalem. Ils sont déjà sauvés, on peut dire. Jésus a dit, vous êtes purs. Et en Actes 2, on a le Saint-Esprit qui tombe sur eux. D'accord? Qui signale la transition entre l'ancienne alliance et l'alliance établie par Jésus-Christ, la nouvelle. En Actes chapitre 8, on arrive, ça c'était Jérusalem et Judée. Actes chapitre 8, il est chez les Samaritains. Philippe prêche, ils reçoivent la parole, ils sont sauvés. Mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit jusqu'au point où les apôtres y allaient. D'accord? Et pourquoi? Pour vérifier que oui, ils ont la foi en Jésus-Christ selon l'enseignement des apôtres. Et on a le Saint-Esprit qui vient sur eux. Acte 10, maintenant on a un non-juif. Juif, demi-juif, les Samaritains. Maintenant, des non-juifs, Actes chapitre 10. Prenez. Ils croient, ils prient, le Saint-Esprit tombe sur eux. Chaque fois, c'est une indication que oui, on voit la progression, c'est un temps de transition. Et Actes chapitre 19, c'est la seule fois, c'est quatre fois en Actes, où on voit qu'une personne croit et le Saint-Esprit vient après. Acte chapitre 19, en fait, c'est des hommes qui sont partiellement évangélisés. Pourquoi je dis ça? Ils sont épaises. Ils sont des croyants. Il dit, est-ce que vous avez entendu parler du baptême de Jésus-Christ? Il dit, non. Jésus, non. On est des disciples de qui? Jean. Donc, ils ont besoin d'être baptisés, d'être évangélisés pour connaître vraiment qui est le Seigneur, c'est Jésus. Donc, dans toutes ces... ces cas, on a un temps de transition. Dans l'Ancien Testament, c'est qui? Les Juifs. Et que des Juifs. Maintenant, Jésus-Christ, c'est pour le monde. Juif, demi-juif et non-juif. Et on a un temps de transition. D'accord? Ça, c'est comment je lis ces passages. Quelle est la conclusion? Chrétien et chrétienne n'a pas besoin de chercher d'avoir plus du Saint-Esprit pour avoir plus de puissance pour la vie chrétienne. À la conversion, le croyant est plongé dans le Saint-Esprit et faisant partie du corps du Christ, fait partie du don du Saint-Esprit qui habite en lui. Ça, c'est clair pour vous? Vous avez le privilège d'avoir la troisième personne de la Trinité, Dieu, le Saint-Esprit habite en vous si vous êtes un chrétien et une chrétienne. Il a pris sa place en vous. Mais ça soulève une question. Que faire avec l'expérience de renouvellement spirituel dans la vie chrétienne qui semble être une nouvelle expérience du Saint-Esprit? D'accord? Est-ce que vous avez vécu ça? Les choses... Et un jour, c'est quand vous avez reçu quelque chose de nouveau du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi on a les expériences comme ça? Je veux juste dire qu'il y a une soumission progressive et fluctuante avec le don du Saint-Esprit. Okay? Et ça doit être compris. Parce que si nous pensons à la vie chrétienne comme ça, donc on a commencé ici, on va terminer comme Jésus, et c'est en ligne droite. Nous serons très, très frustrés et découragés. Mais quel est l'enseignement de la Bible? D'abord, nous avons l'obligation de marcher selon le Saint-Esprit. Galates chapitre 5. On ne va pas voir, vous connaissez, mais il dit qu'il faut marcher selon le Saint-Esprit. Mais s'il doit nous instruire de marcher selon le Saint-Esprit, cela indique que nous pouvons ne pas marcher selon le Saint-Esprit, n'est-ce pas? On a la capacité de résister, de ne pas faire ce que dit le Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous avons aussi la promesse de puissance et de contrôle dans nos vies. Par exemple, si vous marchez selon le Saint-Esprit, vous allez accomplir la loi de Christ. Éphésiens 5, il parle du contrôle du Saint-Esprit qui est comparable au contrôle du vin. C'est-à-dire, on boit trop de vin, maintenant c'est le vin qui conduit. Il dit non, fais pas ça. En fait, sois contrôlé par le Saint-Esprit. Donc, on a cette idée. Marcher selon le Saint-Esprit, c'est d'avoir sa puissance dans nos vies et son contrôle dans nos vies, mais il y a une lutte, n'est-ce pas? Parce que Paul dit, il y a la chair qui habite en nous aussi et qui lutte contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lutte contre la chair. Et nous pouvons, Éphésiens 4, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Nous pouvons vivre sans, hors du contrôle du Saint-Esprit. Nous pouvons, en 1 Thessaloniciens 5, qui est dans le contexte d'une église, on peut mépriser le Saint-Esprit. D'accord. On a le Saint-Esprit dans chaque vie. Comment nous pouvons expliquer les différences dans la vie d'un chrétien, par rapport au Saint-Esprit? Il faut mettre deux choses dans la tête. D'abord, on parle de la soumission au Saint-Esprit. Quand on dit marcher selon, c'est l'idée de quelqu'un qui est un soldat, qui marche selon les pas de tous les autres soldats, en soumission au timing. C'est progressif, ça veut dire que ce n'est pas instantanément. Hein. Je suis sauvé, maintenant je suis parfait. Incroyable. Personne ici n'a vécu ça. Mais aussi, c'est fluctuant. Et je pense qu'on a un peu de problème avec cette idée. Qu'est-ce que je veux dire par fluctuant? C'est-à-dire, on commence ici, la vie chrétienne, et souvent, nous sommes vraiment motivés en tant que chrétiens, on fait beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès. Mais après un moment, on voit une petite baisse. On est attristé, et quand nous sommes moins matures, nous sommes très troublés dans l'esprit. Mais nous voyons, on fait maintenant un peu plus de progrès, mais on arrive à être un peu pareil, au même niveau avant. Je rattrape, je tombe, et je suis maintenant, je suis très attristé, peut-être plus humble. Je ne suis pas peut-être ce que je pensais. Et le Saint-Esprit travaille, et maintenant, au lieu de juste remonter au même niveau, je vois une grande expérience dans ma vie de progrès. C'est un peu normal. Mais en fait, ce qui arrive, c'est notre chute. Mais quand nous mesurons nos vies, pas dans les semaines, ni par les mois, mais par les années, ce que nous notons, c'est que cette fois-là, je suis tombé, oui, je baisse. Je dois reprendre le travail avec le Saint-Esprit pour marcher, mais je vois que je ne suis pas ici. Ni ici, ni ici. En fait, Dieu a fait son travail, et ça, c'est progressif, même si c'est un peu fluctuant. Est-ce que vous voyez ça? Et qu'est-ce que je veux dire en tant que pasteur? Pourquoi je vous dis ça? Je ne dis pas tout cela pour que vous soyez très content d'être ici. Oui, je baisse. Ben non, il faut marcher sans Saint-Esprit. Mais en tant que votre frère et votre pasteur, je veux que vous soyez encouragés. Parce que qu'est-ce que Dieu a fait en Jésus-Christ? Il nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit réside, il habite en nous. Et il est en train de faire son travail. C'est pourquoi Paul peut dire, je suis confiant que celui qui a commencé son travail va l'accomplir. Comment il faut avoir cette confiance? C'est parce que le Saint-Esprit est donné à tout le monde. Il n'existe pas deux niveaux de chrétiens dans l'Église. D'accord? Vous n'êtes pas quelqu'un qui attend le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Et c'est pourquoi nous avons la confiance pour dire oui, on peut avoir une participation globale par ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que vous avez le Saint-Esprit. C'est pourquoi Lala et moi ne prenons pas toutes les décisions nous-mêmes. Nous parlons, nous disons, est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que nous ne pensons pas que nous sommes les deux qui ont le Saint-Esprit. Non. Il est dans toute l'assemblée. Okay? Deuxième chose. Être rempli du Saint-Esprit égale être soumis à l'Esprit Saint. Pourquoi je dis ça? Parfois, c'est nous disant, il me manque quelque chose. Quand je l'ai, je fais. D'accord? Nous perdons un peu la motivation chez nous pour faire quelque chose. Cela veut dire quoi? Si on a un enfant qui va acheter quelque chose. D'accord? Cet enfant, il a deux choses qu'il peut, un enfant un peu plus âgé. Il peut faire deux choses. Soit, il peut dire, moi, j'ai pas l'argent, j'attends le jour où mon papa me donne quelque chose et après je vais l'acheter. Donc, il dit, j'ai pas, quand je reçois, je vais faire. Ou il dit, moi, je veux gagner l'argent pour que je puisse acheter ce que je veux. Je vais trouver une façon de faire. Il y a un manque de motivation parfois quand on dit « j'ai pas, donc qu'est-ce que je peux faire ?» Dans la vie chrétienne, si nous pensons « moi, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, donc je ne peux pas faire ce ministère-là, je ne peux pas vivre comme ça », on a cette idée d'être un peu passif. Mais quand nous disons le Saint-Esprit est là, en fait, la question, ce n'est pas est-ce que j'ai reçu, est-ce que je me suis soumis. Ça, c'est une autre question. Et ça met le poids sur nous. Qu'est-ce que je fais avec l'enseignement que j'ai reçu du Saint-Esprit à travers la Bible pour vivre comme il faut. Okay? Et donc, troisième chose que je veux dire. Chaque croyant est rendu capable par le Saint-Esprit pour contribuer à la vie d'une église. Je sais, parfois, on a l'idée, qu'est-ce que je peux faire, hein? Je ne suis pas tellement doué pour contribuer, je ne suis pas très important, j'attends. En fait, non, si vous êtes en Jésus-Christ, il vous a donné le Saint-Esprit. Et on va voir après, dans les semaines à suivre, que le Saint-Esprit nous rende capables pour contribuer. Et qu'est-ce que cela veut dire? Si vous êtes là, si vous faisons partie d'une autre église, hein, vous avez quelque chose à contribuer à la vie de l'église. Et pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un de très important? Non, parce que vous avez le Saint-Esprit. On va terminer juste. Bon, c'était un peu lourd, je sais. C'est théologique. Mais c'est important parce qu'on peut, on doit avoir d'abord la consolation. Le Saint-Esprit est appelé quoi? Un autre consolateur comme Jésus. Imaginons, nous étions avec Jésus, quelque chose arrive, on a craint. Jésus est là, le maître. Il me console. Je suis triste, le maître, il est là à côté, il me console. Nous avons cette consolation dans le Saint-Esprit. Vous croyez? Quel Jésus, hein? Jésus, il dit, c'est mieux que je parte, que le Saint-Esprit vient. Merci Seigneur pour ça. Et merci Seigneur aussi qu'il a implanté en nous, dans nos cœurs, le Saint-Esprit. Et la croissance, c'est progressive. Oui, parfois c'est fluctuant, mais on va croître grâce à ce que Jésus a fait. On va terminer là et après on va voir dans le